Avec nous à Paris, Miranda Cartier, vous êtes la déléguée générale du diocèse de Saint-Denis. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous face à Christophe Dickès. Vous êtes historien de l'Église et auteur, entre autres, de ce livre paru chez Perrin, Pour l'Église, ce que le monde lui doit. Et puis, on est ravis aussi d'accueillir Philippine de Saint-Pierre à Rome, directrice générale de la chaîne de télévision KTO. Bonjour Philippine et merci d'être de nouveau avec nous. Bonjour. Ce matin, au lendemain donc, de cette élection éclair, finalement, du nouveau pape élu après moins de 24 heures de conclave, Léon XIV. Qui sera le nouveau pape? Robert Francis Prévost est présenté comme le digne héritier du pape François, premier pape américain de l'histoire. Voici d'abord ses premiers mots hier au balcon de la place Saint-Pierre.
Que la paix soit avec vous. Je voudrais moi aussi que cette salutation de paix entre dans vos cœurs et atteigne vos familles, tous les peuples, où qu'ils soient, toutes les nations, la terre entière. Que la paix soit avec vous.
Philippine, est-ce que comme nous, vous avez été surprise de ce choix? Et à votre avis, quel argument a-t-il mis en avant pour être choisi, alors qu'il ne faisait pas partie, a priori, des grands favoris?
Il ne faisait pas partie des grands favoris des médias, mais il faisait quand même partie de la liste des noms qui étaient régulièrement cités. Lui n'a certainement mis en avant aucun argument, puisqu'on rappelle qu'il n'y a pas de candidat. En revanche, le profil très particulier du cardinal Prévost, a posteriori, c'est plus facile de le relire, rassemble sur lui une grande partie des critères des cardinaux, parce que c'est un homme d'unité, c'est un homme de prière, mais aussi un homme d'action. C'est un missionnaire qui est devenu un homme de gouvernement. C'est un homme qui assume la fidélité au pape François et en même temps probablement beaucoup plus classique et en tout cas beaucoup plus classique sur le plan doctrinal. Donc ça apparaît a posteriori comme une évidence et c'est manifestement apparu comme une évidence aux cardinaux, ce qui explique moins de 24 heures de conclave.
C'était un homme qui était dans l'entourage du pape François?
Depuis peu de temps, c'est un homme que François a découvert lorsqu'il s'est rendu en visite au Pérou en 2018. Il l'a nommé dans quelques organes du Vatican progressivement, puis il l'a choisi il y a 2 ans pour être le préfet de ce dicaster pour les évêques, qui est ici un organe extrêmement important qui préside à la sélection de ceux qui vont être appelés à être nommés évêques, mais aussi à la gestion de toutes les situations difficiles qu'il peut y avoir avec les évêques dans le monde entier.
Christophe, l'Amérique du Sud les rassemblait, François l'Argentin, Robert Francis Prévost qui a vécu plus de 20 ans, c'est ça, au Pérou, dont il a obtenu d'ailleurs la nationalité en 2015. Qu'est-ce qu'il y a fait au Pérou?
Alors, en fait, il a joué un rôle de missionnaire d'abord. Ensuite, il a eu une période très importante qui était celle où il a été supérieur, en fait, de l'ordre des Saint-Augustins. C'est un ordre particulier. Hein. Il a cité Saint-Augustin dans son discours. Saint-Augustin est un des plus grands personnages de l'intelligence chrétienne, de l'intelligence de la foi, qui cultivait l'intériorité, la correction fraternelle, le bien commun, l'unité dont parlait Philippine, l'unité. Le pape de l'unité, en fait, dans l'histoire de l'Église, c'est Léon le Grand, parce qu'il a joué un rôle très particulier dans l'Église. Mais si vous me permettez, si vous voulez, ils ont choisi, il y a un prêtre qui parlait hier, ils ont trouvé le mouton à 5 pattes, c'est-à-dire américain, mais de parents européens, et avec un ministère en Amérique du Sud. Évêque de terrain, mais aussi homme de curie. Intellectuel, ce que n'était pas le pape François, mais aussi proche des pauvres et de la simplicité des pauvres.
Ça veut dire quoi, intellectuel ?
Intellectuel, il est docteur en droit canon. Il a une licence de théologie et le pape François n'avait pas en fait ce bagage intellectuel. Et en fait, je pense que le prochain pape va maîtriser sa communication. Là, il a parlé à la foule avec un texte écrit, ce que ne faisait pas du tout.
Mais parce qu'on nous dit qu'il est très timide et très réservé.
Oui,
donc, sans doute, est-ce que pris par l'émotion, il n'aurait pas pu improviser ou faire tout de tête?
Je pense qu'effectivement, on le voit, hein, il avait quasiment les larmes aux yeux. C'était très émouvant de voir cet homme. On n'imagine pas, on ne peut pas se mettre à sa place cette charge absolument immense que représente la responsabilité d'1,4 milliard de catholiques. Donc oui, il a cette humilité. Il est vu comme un conciliateur. Vous savez, l'homme du droit, c'est l'homme qui écoute, qui recherche la meilleure solution et puis ensuite qui décide. Et cela aussi, c'est une idée que l'on retrouve dans le monde religieux dont il fait partie.
Miranda, dans ses premiers mots, dans sa posture aussi, qu'est-ce qui vous a marqué ?
Eh bien, il a commencé par parler de la paix. C'est aussi une continuité avec l'ouverture du conclave, hein, ces cardinaux qui nous appellent, qui appellent le monde entier à la paix, à une trêve sans condition. Eh bien, notre nouveau pape nous donne le ton et nous dit voilà, que la paix soit avec nous et que le mal ne l'emportera pas. Eh bien, c'est un message pour tous les catholiques, mais c'est également un message pour le monde entier et puis pour nos diocèses aussi. La paix dans nos maisons, la paix dans nos cités, la paix dans nos villes, la paix entre les jeunes, dans nos écoles, dans nos quartiers. C'est extrêmement important.
Qu'est-ce que vous attendez de ces premiers pas, de ces premiers chantiers ?
Alors, moi, j'attends le pape au jubilé des jeunes à Rome, un peu comme le pape François, qui son premier voyage a été au JMJ du Brésil. Là, il va rencontrer la jeunesse catholique cet été à Rome. J'attends de savoir la ligne qu'il va donner, le souffle qu'il va donner aux jeunes dans ce moment où on a une demande d'os, de baptême, de confirmation qui augmente. On ne comprend pas trop ce phénomène. On a un concile du catéchuménat qui va démarrer sur la province de Paris. Voilà, j'attends des mots envers ces jeunes, des encouragements, mais aussi une continuité avec le pape François qui nous demande de nous réveiller et de ne pas rester... en attente, voilà, de prendre notre place dans l'Église.
Philippine de Saint-Pierre, on parle beaucoup de paix, mais il est aussi question de justice sociale, notamment quand on choisit de s'appeler Léon, non ?
Oui, et il semble qu'il en ait déjà donné hier quelques éléments d'explication qui nous ont été transmis par la salle de presse. Le dernier pape à s'appeler Léon avant lui, c'est Léon XIII. On est à la fin du 19e siècle, en pleine révolution industrielle et avec des conditions de travail absolument effroyables pour les ouvriers notamment. Et Léon XIII, il va écrire un grand texte qui s'appelle Rerum Novarum, les choses nouvelles, et qui est le fondement de ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église, c'est-à-dire toute la réflexion de l'Église sur les questions de justice sociale, de respect de la dignité des personnes. Incontestablement, le choix de ce nom, Léon XIV, fait référence aussi à Léon XIII et particulièrement, alors on pourrait dire, oui, mais la révolution industrielle, c'était il y a 100 ans, aujourd'hui on a d'autres problèmes, d'autres questions. Non, il y a vraiment une situation des travailleurs dans de nombreux endroits du monde qui est absolument terrifiante et l'Église est souvent à leur côté. Il y a aussi tout simplement la question du respect des personnes à l'ère de l'intelligence artificielle. Donc ce nom n'a pas fini de nous éclairer. Il y a la dimension de la paix, il y a la dimension de la justice et en même temps il y a cette très grande continuité qu'on a vue dans les premiers propos du pape qui, comme le disait Christophe, a cité saint Augustin. C'est un pape qui peut créer des ponts, y compris à l'intérieur de l'Église, dans les endroits où elle peut être elle aussi un peu polarisée.
Merci Philippine de Saint-Pierre, en direct du Vatican où le nouveau pape va donc célébrer sa première messe tout à l'heure à 11h. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin.